tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale.
Alors la Lorraine a démarré son déploiement le 8 avril depuis Toulon. Nous avons traversé la Méditerranée assez vite parce que pour un déploiement de 4 mois aussi lointain, on avait fait le choix d'aller rapidement en Méditerranée et en océan Indien pour passer plus de temps dans la zone Pacifique, Indo-Pacifique.
Moi, je formulerais les choses ainsi. Le métier de la Lorraine, c'est d'essayer de voir toujours le plus loin possible, à la surface, dans les airs et puis sous la mer. Et puis également, c'est une expérience personnelle humaine très riche, puisque je n'avais pas de culture navale. Et donc, grâce au commandant, j'ai acquis quelques rudiments en peu de temps.
Alors rejoindre un groupe aéronaval, c'est toujours un défi parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, ce qu'on fait de plus compliqué en termes d'agrégation de forces, et ça nécessite un certain nombre de savoir-faire. Donc pour un équipage, c'est toujours un défi et un moment qu'on prépare avec beaucoup d'attention. C'est la première fois qu'une frégate de premier rang française s'intégrait au groupe aéronaval de la 7e flotte dans le Pacifique Nord-Ouest.
La Frême Lorraine, de retour à quai après 4 mois passés en mer. Livrée le 16 novembre 2022 par Naval Group, cette frégate européenne multimission a achevé son déploiement de longue durée. Du 8 avril au 2 août, diverses missions ont été confiées à son équipage, qui était composé de marins mais aussi du directeur de l'IFRI, Thomas Gomard. Nous voici donc 2 mois plus tard, fin septembre, dans les bureaux de l'IFRI justement pour faire un retour d'expérience. Alors, à quoi servent les déploiements de longue durée ? Sur quelle mission la FREM DA Lorraine a-t-elle été déployée et surtout, dans quel but? Pour en parler, je suis en présence non pas d'un, mais de 2 invités. Le CESM a aujourd'hui le plaisir de recevoir le capitaine de vaisseau Bago, commandant de la FREM DA Lorraine. Nous recevons aussi Thomas Gomard, directeur de l'IFRI. Bonjour messieurs.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, vous étiez tous les deux présents à bord de la Lorraine. Le retour, c'était le 2 août. Est-ce que le retour s'est bien passé, le retour à terre?
Le retour s'est bien passé, nous sommes effectivement revenus le 2 août à Toulon, au port base, de ce premier déploiement, le déploiement de longue durée, qui aura duré 4 mois.
Et donc Thomas Gomard, donc vous étiez présent le 2 août aussi?
Non, moi j'ai embarqué une huitaine de jours et je suis rentré en pleine forme mi-juillet.
Parfait. Alors on va poser un peu le contexte de cette interview. Commandant, justement, est-ce que vous étiez commandant de la FREM DA Lorraine? Est-ce que vous pouvez nous le présenter tout simplement?
Donc la FREM DA Lorraine est la huitième d'une série de... la dernière d'une série de 8 frégates. Les 6 premières sont consacrées à la lutte anti-sous-marine et à la projection de puissance avec les missiles de croisière navale. Les 2 dernières, l'Alsace et la Lorraine, sont un petit peu différentes. Elles ont les mêmes capacités pour la chasse aux sous-marins, la lutte anti-sous-marine, et en revanche, elles sont renforcées en défense aérienne. Elle ne comporte pas de missiles de croisière navale. Voilà, donc la Lorraine a été livrée à la marine en novembre 2022. Et donc elle est en phase de, avant son admission en service actif, le début de sa vie opérationnelle, en phase de vérification de ses caractéristiques militaires. Donc c'est une sorte de rodage. Et puis pendant les 4 mois de ce déploiement, nous avons testé le système un peu dans toutes les configurations.
Donc comme on l'a dit, c'est une frégate de défense anti-aérienne renforcée. C'est quelle différence par rapport aux FREM dites MDCN?
Les différences principales, donc effectivement, on n'embarque pas de missiles de croisière navale, donc cette capacité de projection de puissance, nous ne la possédons pas. En revanche, nous avons une capacité renforcée en défense aérienne, c'est-à-dire que nous avons plus de missiles Aster 30, Aster 15. Nous avons un radar qui est renforcé, donc qui a une puissance doublée par rapport aux FREM MDCN. Et enfin, la caractéristique visible, si j'ose dire, c'est cette mâture dite taille de guêpe, qui permet de limiter l'angle mort sur l'arrière du bâtiment, qui nous permet de suivre des avions de chasse ou des missiles assaillants sur 360 degrés.
Effectivement, et puis c'est vraiment consacré uniquement à cette tâche-là. C'est à quel effectif?
Alors, on a un effectif un peu plus important que celui des FREM MDCN. Nous avons 9 marins en plus, spécialisés dans le domaine de la défense aérienne. Donc ça fait un bateau qui est centré sur la lutte sous-marine et la défense aérienne. Comme toutes les autres unités de premier rang, elle est également capable dans le domaine de la lutte anti-navire. Donc vous avez un bateau qui est prévu pour agir dans les 3 domaines de lutte principaux. Et donc c'est un bateau qui est assez adapté au retour du combat naval, en tout cas à la préparation du retour du combat naval. On n'est pas tourné vers la terre, on est vraiment tourné vers le large et le retour du combat naval.
L'objectif de ce déploiement de longue durée, c'était de rejoindre ce qu'on appelle un Carrier Strike Group, qui est un équivalent de porte-avions, mais pour les Américains.
Voilà, le Carrier Strike Group, c'est ce qu'on appelle en français le groupe aéronaval.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc centré autour du Charles de Gaulle pour la France, et pour les Américains, autour de l'un de leurs 11 porte-avions. Mmh. En l'occurrence, nous sommes allés chercher la flotte du Pacifique, la 7e flotte, autour du Ronald Reagan, le porte-avions Ronald Reagan.
Mmh. Alors, Thomas Guéomard, justement, vous étiez vous aussi présent à bord de cette frame, mais pour 8 jours environ. Alors, comment ça s'est passé votre embarquement?
Bah, très bien. Mmh. J'ai eu la chance d'embarquer à l'invitation du commandant à Manille et de débarquer à Singapour. Et donc, pendant une huitaine de jours, effectivement, de suivre toutes les opérations conduites par la FREM avec un rythme extrêmement soutenu. Parce que je crois que c'est un des premiers enseignements. En ce qui me concerne, la mer de Chine est une zone d'opération et la FREM est un équipage qui a été poussé par son commandement. Je pense d'ailleurs qu'il a su répondre très efficacement, mais c'est très exigeant en fait. Mmh. C'est ce qu'on découvre quand on a la chance de pouvoir embarquer sur ce type de navire.
Et puis ça devait être particulier quand même, même en tant que directeur de l'IFRI, d'embarquer à bord d'un équipage marin. Pourquoi avoir embarqué?
Alors, c'est une grande chance, effectivement, et j'en profite pour remercier le commandant Weigo, ainsi que l'état-major de la marine. La raison est la suivante, c'est que, comme directeur de l'IFRI, j'ai essayé, en lien avec le Centre des études de sécurité de notre institut, qui est dirigé par Elie Tenenbaum, de développer une expertise sur les questions navales. Nous le faisons depuis plusieurs années, ça s'est notamment traduit par la mise en place d'un partenariat entre la Marine nationale et l'IFRI, au même titre que les partenariats qui existent avec l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace. Et dans le cadre de ce partenariat, nous accueillons à l'IFRI un officier, le capitaine de frégate Bachelier, et qui a aussi comme mission, au fond, de faire rayonner la marine comme le font les autres armées. Et si vous voulez, mon embarquement s'est fait dans ce cadre. Il est très utile pour moi parce que je suis, comme directeur de l'IFRI, très souvent interrogé à l'étranger, notamment sur la stratégie Indo-Pacifique. Et donc il est important de pouvoir illustrer au fond un discours qui est un discours diplomatique très, très utilisé actuellement. Et puis également, c'est une expérience personnelle humaine très riche, puisque je n'avais pas de culture navale, très peu, et donc grâce au commandant, j'ai acquis quelques rudiments en peu de temps.
Alors justement, lesquels ?
Bien écoutez, d'abord, je crois que j'ai compris ce qu'était un système d'armes. C'est une notion qu'on utilise tous. Le commandant vient de rappeler les capacités de la Lorraine. Au fond, moi, je formulerais les choses ainsi. Le métier de la Lorraine, c'est d'essayer de voir toujours le plus loin possible, à la surface, dans les airs, et puis sous la mer. Et donc ça demande ça révèle un niveau de complexité très, très important, c'est-à-dire qu'il faut être capable de voir ces trois dimensions simultanément. Et puis, une frégate comme la Lorraine, ça a aussi pour vocation à la fois d'être très autonome quand il le faut et de savoir s'intégrer dans un dispositif allié. Et là aussi, ça requiert évidemment, ou ça génère un niveau de complexité très important. Donc ça, c'est le premier enseignement, si vous voulez, sur un système d'armes complexe et comme capacité à la fois à recueillir beaucoup d'informations, à les traiter et à les mettre en œuvre à finalité de combat si nécessaire. Le deuxième enseignement, bon, on y reviendra peut-être, c'est un enseignement de type géopolitique compte tenu du théâtre sur lequel la partie de la mission à laquelle j'ai participé s'est faite. Troisième enseignement, c'est aussi un enseignement sur les questions au fond de commandement, de voir comment un équipage fonctionne. Moi, je suis arrivé à peu près, ça devait être le troisième mois de mission. Donc c'est un moment intéressant, je pense, parce qu'il y a une forme d'efficacité, d'habitude, peut-être aussi de fatigue qui peut se ressentir et comment au fond on essaie de maintenir l'intensité opérationnelle. Et puis, dernier enseignement, c'est de bien comprendre aussi comment un déploiement comme celui de la Lorraine s'inscrit dans une politique plus globale, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a été conduit au moment où il y avait un exercice Pégase conduit par l'armée de l'air et de l'espace et qu'au fond tout ça participe de logique que l'IFRI a d'ailleurs publié une étude sur ce sujet. Tout ça participe de ce qu'on appelle le signalement stratégique.
C'est certain. Et puis Thomas Guéomard aussi, on vous connaît davantage pour des questions géopolitiques liées à la Russie, liées à l'Ukraine, liées à l'Europe, etc. Donc là, ça veut dire que vous aventuriez aussi dans une zone où potentiellement vous aviez peut-être moins d'affinités et moins de connaissances, non ?
Oui, c'est certain, ça, c'est pas du tout un théâtre que je fasse, enfin, un théâtre que je découvre, même si dans le cadre de mes activités à l'IFRI, j'ai fait plusieurs missions à Singapour, au Japon, je vais très régulièrement au Japon depuis des années déjà, évidemment en Chine, mais par exemple la découverte des Philippines et l'importance des Philippines est un des enseignements pour moi de cette mission. Je pense que un des enseignements aussi géopolitiques auquel je reviens, c'est l'importance évidemment du Vietnam.
Effectivement, mais ça on y reviendra peut-être dans une deuxième partie de l'interview. Là l'idée c'est on va procéder de manière chronologique, c'est-à-dire que donc la FREM démarre son déploiement de longue durée le 8 avril et elle a été déployée en Méditerranée, etc. Mais avant d'aller en Asie du Sud-Est, elle a fait escale, comme je le disais, en Méditerranée. À un moment un peu particulier, commandant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé le 24 et le 25 avril à Port-Soudan ?
Alors la Lorraine a démarré son déploiement le 8 avril depuis Toulon. Nous avons traversé la Méditerranée assez vite, parce que pour un déploiement de 4 mois aussi lointain, on avait fait le choix d'aller rapidement en Méditerranée et en Océan Indien pour passer plus de temps dans la zone Pacifique, Indo-Pacifique. Malgré tout, comme souvent en opération, il peut arriver des événements imprévus, des surprises. Et c'est ce qui s'est passé juste après le franchissement du canal de Suez, donc une dizaine de jours après l'appareillage, puisque la situation s'est dégradée au Soudan. Et donc le 19 avril, nous avons, après la sortie du golfe de Suez, fait route très rapidement vers les côtes soudanaises pour se préparer à l'éventualité d'une évacuation de ressortissants.
C'est ça, parce que c'est le premier résévac qui a été effectué par une FREM.
Oui, alors les résévacs sont des opérations qui... les évacuations de ressortissants sont des opérations qui arrivent de temps en temps. Moi, j'avais participé en 2006 à l'évacuation au large du Liban. En revanche, les FREM, à ce stade, n'avaient pas encore eu l'occasion d'y participer. Et donc là, nous sommes prépositionnés. Nous étions en planification le plan alternatif au mode d'action principal, qui était plutôt une évacuation par voie aérienne depuis Khartoum. Car il faut voir qu'il y a 800 km de route entre Khartoum, la capitale du Soudan, et puis les côtes soudanaises. Donc il était évident qu'il était plus efficace d'aller les chercher à Khartoum que de leur faire traverser le Soudan en guerre. Voilà, donc plan alternatif, et de retour devant les côtes soudanaises, au moment où l'opération aérienne Sagittaire depuis Khartoum s'effectue, à ce moment-là, la France a proposé son aide aux Nations Unies pour évacuer une partie du convoi qui, lui, avait fait la route, des 1200 personnes travaillant pour les Nations Unies et leurs familles, qui avaient fait la route de Khartoum jusqu'à Port-Soudan. Donc nous avons embarqué 400 personnes. Les autorités des Nations Unies ont sélectionné les 400 personnes les plus urgentes à évacuer, donc essentiellement des familles avec enfants, des personnes âgées, des blessés. Donc 400 personnes pour un bateau avec un équipage pour cette mission de 150 personnes, c'était un vrai défi.
Et justement, en parlant d'équipage, comment était l'ambiance à bord ? Ça devait être particulier, sachant que c'était le déploiement de longue durée.
Oui, alors ce type de situation opérationnelle réelle qui se déclenche sous faible préavis sont des occasions de mobilisation, de concentration, et puis en général extrêmement fédérateur pour l'équipage. Alors, en tout début de vie opérationnelle du bateau, c'était une vraie chance de pouvoir participer à cette évacuation parce que voilà, ça crée une dynamique, un esprit d'équipage qui vient attester le professionnalisme de chaque marin, sa motivation et puis surtout la cohésion de l'équipage. C'est une opération qui a duré à peu près une semaine pour nous. Et chacun garde de cette séquence vraiment d'abord une fierté. Et puis, des échanges extrêmement forts avec les personnes qu'on a évacuées, qui avaient vécu des traumatismes pendant les quelques jours à Khartoum, au cœur des combats, et puis ces 48 heures de convoi entre Khartoum et Port-Soudan.
Et justement, donc après cette opération, on arrive un peu dans la deuxième partie de l'interview. C'est à ce moment-là où vous avez migré vers l'Asie du Sud-Est. Parce que la Lorraine, comme je le disais, a passé une grande partie de son déploiement dans cette zone qui est très importante, qui est au cœur de la géopolitique mondiale actuelle. Alors, Monsieur Gomard, on va faire appel à votre connaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement le contexte géopolitique de l'Asie du Sud-Est ?
Ouf ! Alors, quelques phrases, alors, on va essayer. Bon, vous l'avez dit, c'est devenu un théâtre très important pour la raison suivante, c'est qu'il correspond au déplacement du centre de gravité du système monde. C'est-à-dire que vous avez en Asie du Sud-Est, aujourd'hui, la principale matrice du dynamisme économique, avec à la fois la Chine,
et puis les pays de l'ASEAN. Donc ça c'est le premier point. Et puis de l'autre côté du Pacifique, les États-Unis, il y a une configuration générale aujourd'hui qu'on peut résumer de la manière suivante, c'est qu'on a une interdépendance économique extrêmement poussée entre les États-Unis et la Chine dans un contexte de rivalité stratégique. Et que un des points d'observation de cette rivalité stratégique, c'est précisément la mer de Chine. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la mer de Chine, en mer de Chine, il y a des différents contentieux, litiges. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est la relation entre la République populaire de Chine et Taïwan, puisque la République populaire de Chine entend conduire une réunification et qu'un pays comme le nôtre reconnaît le principe d'une Chine. Et en même temps, vous avez une identité taïwanaise qui n'a cessé de s'affirmer depuis 1949. À ce problème absolument central s'ajoutent des revendications territoriales de la part de la République populaire de Chine sur un certain nombre d'îlots ou de zones qui, au fond, sont contestées, pour certaines d'entre elles militarisées, en dépit des positions prises par la communauté internationale ou de jugements de la Cour d'arbitrage, je pense en particulier au jugement de 2016. Le troisième élément, c'est que en mer de Chine, au fond, se joue une conception de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est avant tout une maritimisation, et donc il n'y a pas de maritimisation sans liberté de naviguer. Que ce qui se joue en mer de Chine, c'est la conception de la liberté de navigation. Donc c'est en ce sens que c'est tout à fait crucial, puisque c'est une sorte de laboratoire, probablement, des différentes conceptions en la matière, et un laboratoire où cette liberté de navigation, telle qu'elle a été pensée, mise en œuvre depuis, je ne saurais pas tellement le dater comme point de départ, mais est contestée par la République populaire de Chine. Il y a un quatrième élément qui est la densité en fait, des flux qui transitent par cette zone.
C'est 30% du commerce maritime mondial.
Voilà, et parmi ces flux, il y a un élément extrêmement important qui tient au flux de puces électroniques, puisque les principaux producteurs aujourd'hui de puces électroniques, notamment pour les plus avancés, sont de très loin à Taïwan. Suivi du Japon et de la Corée du Sud. Et donc il y a aussi cette dimension, c'est que ces flux commerciaux dans cette zone ont une sorte de qualité spécifique qui tient au lieu de production et donc ensuite d'exportation vers les États-Unis et vers l'Europe ou aussi vers le Moyen-Orient, pardon, de ces puces électroniques. Et puis j'ajouterai un cinquième élément qui tient à la montée en puissance de la Chine, qui passe par une montée en puissance navale, et où cette zone est extrêmement importante parce qu'il faut la comprendre à la fois comme une zone qui entrave les capacités de projection de la Chine, notamment pour ses sous-marins ou ses groupes aéronavals, c'est-à-dire qu'il faut sortir en fait, ou qui peut se concevoir comme un bastion, les deux lectures étant possibles, dans un contexte général où ce qu'on observe, c'est une Chine qui accentue et accélère aujourd'hui son développement en matière nucléaire. Et cette accélération provoque des réactions aussi de réarmement de la part du Japon, de la part de la Corée du Sud et de l'ensemble des acteurs de la région. Voilà en cinq points peut-être la manière de cadrer les choses, mais on pourra en parler plus longuement et plus précisément.
On y reviendra dans quelques instants, mais en tout cas on a compris qu'il y avait vraiment un enjeu, que c'était une zone avec de nombreuses tensions et avec de nombreux enjeux, notamment économiques et politiques et historiques.
Si vous voulez, c'est un nœud en fait. Oui, il faut comprendre ça comme un nœud géostratégique, en réalité.
Oui, c'est certain. Et puis, sur le terrain, du coup, ça se pratique, ça se traduit par, notamment pour la Frame Lorraine, par des exercices interalliés avec notamment les forces japonaises d'autodéfense.
Alors oui, donc le déploiement avait comme objectif d'aller tester le bateau. Hein, j'ai dit, c'était le déploiement inaugural avant l'admission au service actif. Mais quand on se déploie dans un théâtre comme l'Indo-Pacifique, évidemment, on en profite pour aller renforcer les partenariats avec l'ensemble des marines de la région, en particulier la marine d'autodéfense japonaise, parce que nous avons fait une escale à Tokyo, et à l'issue de l'escale, nous avons pu nous entraîner avec une frégate, la dernière frégate japonaise, et puis le dernier sous-marin japonais également. Donc ça nous a permis de resserrer nos liens avec avec les forces japonaises. Et nous avons, dans la suite du déploiement, également travaillé en déploiement avec un groupe aéronaval japonais. Donc ça, c'était le premier partenariat que nous avons développé dans la région. Deuxième pays avec lequel nous avons travaillé, M. Gomard l'a évoqué, ce sont les Philippines, pays particulièrement stratégique puisqu'il constitue la bordure est de la mer de Chine méridionale. Et donc, quand on se déploie dans cette région, c'est évidemment un point d'appui avec lequel nous travaillons. Et donc, nous avons, à l'occasion de l'escale, beaucoup approfondi nos relations avec la marine des Philippines. Marine des Philippines qui est évidemment extrêmement engagée par ce qui se passe en mer de Chine, dans les jeux de contestation et de revendication des différents îlots.
Et donc vous étiez là, vous effectuiez des exercices interalliés pour faire notamment du signalement stratégique. C'était vraiment un peu le cœur de ces exercices.
Tout à fait. Donc le principal signalement stratégique a consisté à rejoindre le groupe aéronaval du Ronald Reagan, en particulier au début de cette séquence, après l'escale et les entraînements avec les Japonais. Et donc c'est typiquement le type de signalement stratégique avec des manœuvres combinées. Regroupant plusieurs nations, donc américains, japonais, canadiens, France, dans un premier temps en mer des Philippines et puis ensuite en mer de Chine, là aussi dans un souci de manifestation de notre attachement à la liberté de navigation dans ces zones.
L'idée, c'est de renforcer la présence française dans cette zone-là.
La zone Pacifique et le Pacifique Nord-Ouest en particulier sont des zones qui sont éloignées de la métropole, donc c'est évidemment, on patrouille régulièrement à partir de nos points d'appui dans le Pacifique avec les territoires d'outre-mer, donc avec les frégates de surveillance basées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Et on essaye ces dernières années, et en particulier en 2023, d'accentuer la présence d'unités de premier rang, voilà, donc de bâtiments un peu plus fortement armés, et qui forcément permettent d'accentuer, d'approfondir nos coopérations avec les marines partenaires.
Donc comme vous le disiez, vous avez rejoint le Carrier Strike Group américain. Comment se sont déroulés les exercices ?
Rejoindre un groupe aéronaval, c'est toujours un défi parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, ce qu'on fait de plus compliqué en termes d'agrégation de forces, et ça nécessite un certain nombre de savoir-faire. Donc pour un équipage, c'est toujours un défi et un moment qu'on prépare avec beaucoup d'attention. Une autre dimension qui ajoute une certaine dose de difficulté, qui est que la marine française est habituée à travailler avec la marine américaine de la Méditerranée ou la marine américaine de l'océan Indien. Voilà, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on travaille assez régulièrement ensemble. En revanche, dans le Pacifique, c'est beaucoup plus rare. Et c'est la première fois qu'une frégate de premier rang française s'intégrait au groupe aéronaval de la 7e flotte dans le Pacifique Nord-Ouest.
Comment la Lorraine s'est illustrée lors de ces exercices ?
Alors, on aborde les choses avec humilité au départ, puisque, voilà, comme je le disais, on a un manque de connaissances mutuelles dans cette zone, et donc il faut apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance. Donc, au départ, on intègre comme unité dans le rang, et l'objectif petit à petit est de gagner la confiance de façon à ce que le commandement du groupe aéronaval, l'amiral commandant du groupe aéronaval, en fin de séquence, donc à la fin des deux semaines, nous confie des responsabilités dans la direction de domaines de lutte. Voilà, donc en particulier, sur la fin de cette intégration, l'amiral nous a confié la direction de la lutte anti-navire et de la lutte anti-sous-marine.
Ça a dû être une sacrée satisfaction personnelle et puis même du point de vue de l'équipage aussi.
Oui, tout à fait, parce que avant d'y aller, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. On a rencontré un certain nombre de difficultés techniques, hein, parce que je le disais, c'est pas parce qu'on s'intègre régulièrement en Méditerranée, en Océan Indien, que les choses se passent de la même façon dans le Pacifique. Ce sont des flottes différentes, avec des cultures différentes. On n'est pas dans le monde de l'OTAN quand on est dans le Pacifique Nord-Ouest. Et donc, il a fallu nous habituer et puis, quelque part, adapter nos procédures, une partie de nos procédures pour nous adapter à cette réalité de la flotte du Pacifique.
Et d'ailleurs, ces exercices interalliés se sont déroulés notamment dans un des points chauds de cette zone, qui est la zone des Spratleys. C'est un passage situé en mer de Chine méridionale qui est donc, si on résume, au carrefour de la Malaisie, du Vietnam, des Philippines et de la Chine. Monsieur Gomard, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les enjeux d'un tel passage ?
Les enjeux sont liés à ce que nous indiquions précédemment, c'est-à-dire la liberté de navigation, les différentes revendications sur
les Spratleys, notamment les revendications chinoises. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ces zones contestées le sont parce que nous sommes dans un débat assez à la fois juridique et politique sur, au fond, la conception du droit de la mer. Au fond, le droit de la mer se définit par rapport à la terre. L'approche chinoise est inverse. C'est-à-dire que l'approche chinoise consiste à dire nous allons définir une zone maritime. À partir de cette définition, donc c'est tout ce débat sur le nombre de traits, qui a tendance d'ailleurs à augmenter, et qui sert de cadre de référence à la République populaire de Chine, définissant au fond une souveraineté à partir de la mer, ce qui est l'approche. Donc c'est un débat assez fondamental, parce qu'on voit bien les conséquences que cela peut avoir.
C'est deux visions qui s'opposent.
Ce sont deux visions qui s'opposent, d'une part, et d'autre part, on voit bien les conséquences que ça peut avoir à la fois en mer de Chine, et puis ailleurs, à partir du moment où vous modifiez la définition de la souveraineté, eh bien, il faut s'attendre, et ça a d'ailleurs été le cas très récemment avec la publication des nouvelles cartes par les autorités chinoises, qui font qu'un certain nombre de ses voisins, et notamment, ce qui peut sembler paradoxal dans le contexte actuel, la Russie, ont des sujets d'inquiétude. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête comme arrière-plan, et c'est ça qui est extrêmement intéressant à observer, je dirais, sur le théâtre. C'est-à-dire que quand vous êtes un observateur comme je l'ai été, vous constatez que vous êtes dans une zone où, je dirais, action-réaction. C'est-à-dire que toute opération ou toute action provoque une contre-opération ou une réaction. Et l'apport d'un système comme la Lorraine, c'est précisément d'abord de pouvoir le voir, faut le comprendre, et ensuite le travail du commandant et de son état-major, c'est de l'interpréter. Et c'est ça qui est très intéressant à observer quand vous êtes dans ma position, c'est que vous voyez, si vous voulez, les différents, je dirais, chaînons entre ce qui relève de la captation d'informations, de son traitement, déjà c'est un degré de complexité, l'interprétation qui en est faite, la lecture en fait, qui en est faite, au niveau du système d'armes et donc du contexte tactique, et puis la lecture, on a pu avoir ensuite dans des discussions ou avec des échanges auxquels pour ma part j'ai pas évidemment assisté, mais c'est-à-dire comment ce qui est constaté au niveau tactique est interprété puis lu au niveau stratégique.
Alors, du coup, comment se positionne la France dans cette zone des Spratleys? On fait de la surveillance et du signalement stratégique. Commandant.
Un premier point peut-être, c'est que le fait d'envoyer un bateau tel que la Lorraine dans cette région, c'est d'abord envoyer un capteur avec ses radars, ses sonars, ses moyens de guerre électroniques qui nous permettent d'avoir une appréciation autonome des situations. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction stratégique influence. Dans cette région, c'est le théâtre de jeux d'influence permanent entre les différents acteurs. Et donc, il est bon de temps en temps, et le plus souvent possible, d'aller voir sur place avec des éléments objectifs et pour pouvoir se faire notre propre idée de la situation. Deuxième point, effectivement, c'est du signalement stratégique. Donc, il déployait des moyens militaires crédibles de façon à manifester notre attachement, c'est-à-dire être la manifestation de la stratégie française Indo-Pacifique avec sa singularité. On est attaché aux alliances avec les partenaires sans forcément chercher à vouloir amplifier le conflit ou le faire se dégénérer. Au contraire, on essaye de l'apaiser, mais il faut y aller, il faut y être, et puis travailler avec l'ensemble des partenaires. Ces deux volets-là, on a coutume de dire que la France est une nation du Pacifique, avec nos territoires d'outre-mer, et donc on y va de fait pour peser dans le débat. Et voilà. Moi, j'avais eu la chance de naviguer en 2017 dans la région à l'occasion de mon précédent commandement. J'ai très nettement vu une évolution en 6 ans.
Ah, c'est-à-dire quelle évolution y a-t-il eu
de densité, de présence militaire, et puis une certaine désinhibition, si j'ose dire, des comportements dans la région. Là où,
vis-à-vis de certains acteurs, notamment.
Vis-à-vis de certains acteurs.
Est-ce que vous avez senti l'expansionnisme chinois?
Alors oui, on sent une présence militaire chinoise bien plus décomplexée et bien plus agissante. Voilà. On sent davantage de tensions, on sent à la fois au niveau des unités de surface, des bateaux, mais aussi dans l'espace aérien, une densité d'activité aérienne qui est absolument considérable. Voilà, donc c'était particulièrement éclairant de voir cette évolution en quelques années de cette densité d'activité militaire dans la zone.
Et alors, commandant, monsieur Gomard, on arrive à la fin de cette interview. La FREMDA, justement, est à quai actuellement. Elle sera admise au service actif de la marine dans les prochains mois. Est-ce que, question évidente, mais est-ce qu'elle risque de repartir en Asie du Sud-Est pour sa première affectation? commandant ?
Alors l'affectation du bateau, son port base, reste Toulon. Et pour ce qui est des déploiements futurs, je sais que le prochain déploiement devrait plutôt être concentré sur la Méditerranée. En revanche, pour la suite, bien entendu, ça peut être la Lorraine mais, ou un autre bâtiment. Il y aura d'autres déploiements dans cette région. Et j'ajouterais peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'importance des points d'appui. Voilà, moi j'ai pris conscience pendant ces déploiements de l'importance des points d'appui autour d'une zone de conflit ou de conflit potentiel. On a parlé du Japon, on a parlé des Philippines, on peut parler du Vietnam, la place de Singapour, l'Australie un peu plus loin. Vu la tyrannie des distances, quand on parle de la zone Indo-Pacifique, il nous faut réfléchir, nous, en tant que marins, parce qu'on ne pourra pas, évidemment, revenir en France pour ravitailler et pour mettre en place toute notre chaîne logistique de ravitaillement et maintenance, etc. Donc on doit raisonner point d'appui et partenariat. Voilà. C'est donc un point très important qu'on a cherché à développer pendant ce déploiement et qui, moi, m'a particulièrement éclairé. Est-ce que ce sera la Lorraine dans les années qui viennent ? Je ne sais pas. D'autres unités sont prévues dans les années qui viennent. J'en suis certain et je sais qu'il y a déjà des planifications en cours. Et voilà. À titre personnel, je serais ravi d'y retourner, mais je ne peux pas vous le garantir.
On verra ça. Et d'ailleurs, ce sera le mot de la fin. Alors merci commandant Bago, je rappelle que vous avez été le commandant de la FREM DA Lorraine de classe Aquitaine. Merci également à vous, Thomas Gomard, je rappelle que vous êtes le directeur de l'IFRI. Merci enfin à tous nos auditeurs, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci pour votre fidélité, sincèrement. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.